Alors, avant la conférence, et très vite, une petite lecture, mais importante, parce que c'est une lecture donnée par les maîtres à propos de karma. Et les maîtres avaient écrit, donc, et on retrouve ce passage dans la doctrine secrète de Madame Blavatsky, à propos des voies de karma. Les voies de karma ne seraient pas impénétrables si les hommes travaillaient dans l'union et l'harmonie, au lieu de travailler dans la désunion et la lutte. Notre ignorance de ces voies, qu'une partie de l'humanité appelle les voies sombres de la providence, tandis qu'une autre y voit l'action d'un fatalisme aveugle, et une troisième le simple hasard, sans Dieu ni démon pour les guider, notre ignorance donc disparaîtrait sûrement si nous voulions seulement les attribuer toutes à leur cause réelle. Avec la connaissance juste, ou tout au moins une conviction basée sur la confiance que nos voisins ne cherchent pas plus à nous nuire que nous ne songerions nous-mêmes à leur faire du mal, eh bien les deux tiers des maux du monde s'évanouiraient dans les airs. Si personne ne faisait de mal à son frère, Karma Némésis, Némésis c'est la déesse de la mémoire chez les Grecs, Karma Némésis n'aurait pas de cause pour agir, ni d'armes pour assurer son action. C'est journellement de nos propres mains que nous traçons le cours sinueux de nos destinées, alors que nous nous imaginons poursuivre notre chemin sur la grande route royale de la respectabilité et du devoir, et nous nous plaignons ensuite que ces voies soient si inextricables et si sombres. Nous sommes déroutés en présence du mystère qui est notre œuvre et des énigmes de la vie que nous ne voulons pas résoudre, et nous accusons ensuite le grand sphinx de nous dévorer. Bref, il faudrait lire ainsi tout le livre, mais place à la conférence.
Disons pour commencer que la notion d'interdépendance n'est pas nouvelle. On peut se féliciter que les bouddhistes en parlent beaucoup, mais les philosophes, les sociologues, en Occident aussi, ont évoqué cette interdépendance en liaison avec l'interaction mutuelle de tous les aimants d'un système, qu'il soit vivant ou inerte, et en liaison aussi avec la solidarité. Trois notions qui sont très étroitement liées, interdépendantes, l'interdépendance, l'interaction et la solidarité. Alors, on lit dans des dictionnaires qui sont très antérieurs à l'arrivée du bouddhisme, mais postérieurs à l'arrivée de la théosophie en Europe, on lit, par exemple, pour la solidarité, dépendance mutuelle, donc interdépendance, entre les hommes, qui fait que les uns ne peuvent être heureux et se développer que si les autres le peuvent aussi. Les sociologues diront qu'il faut distinguer la solidarité faite naturelle et la solidarité vertu. La vertu appelée solidarité est l'union volontaire et le dévouement réciproque des hommes. La solidarité comme fait naturel est à la fois physique, biologique, hérédité, contagion, économique, politique, intellectuelle et morale. Entre parenthèses, contagion du vice et de la vertu. La vertu de solidarité, c'est la justice intégrale. Solidarité faite, solidarité devoir, ne confondons jamais l'un et l'autre, mais il est indispensable de constater la première pour apercevoir la nécessité morale de la seconde. Si l'on pense maintenant, si l'on se tourne vers ce que dit ce vieux dictionnaire déjà, à propos de l'interdépendance, on lit « Aucun phénomène naturel ou social ne peut, par conséquent, être compris si on l'isole de l'ensemble dont il fait partie, à la fois en tant que cause et en tant qu'effet. » Et le philosophe sociologue André Lefebvre a écrit « Cause et effet ne sont que des moments de l'interdépendance universelle. » Nous y voilà. Cause et effet ne sont que des moments de l'interdépendance universelle. Alors, quand nous entendons les mots cause et effet, nous pensons tout de suite à la loi de karma, puisque c'est la loi précisément de causalité qui ajuste les effets aux causes. Donc, il doit y avoir un rapport évident, quelque part, entre l'interdépendance universelle et la loi de karma. Mais, bien souvent, quand on pense karma, on pense à mon karma, à moi, j'ai fait quelque chose dans le passé, et là, voilà que maintenant, je récolte les effets de ces causes semées jadis, ou peut-être même dans cette vie, et mon karma, moi, m'apparaît un peu comme une récompense des actions méchantes, maintenant, de nos jours, on dit négatives, et... Pardon, le bon karma, c'est la récompense des actions, des bonnes actions, et le mauvais karma qui m'arrive, c'est la punition des choses méchantes, négatives que j'ai pu faire dans le passé. Donc, une vision un peu rikiki, un peu restreinte. On est loin de la notion d'interdépendance universelle. Alors, si l'on se tourne vers l'hindouisme, on fait une petite promenade du côté de l'hindouisme, on voit bien sûr que la notion de karma sort tout droit de la pensée des hindous, par exemple des Védas ou des lois de Manu, par exemple, on voit très bien que la société, bien sûr, c'est un tissu vivant et où chacun a sa place et où chacun peut faire son petit bonheur. Qu'est-ce qu'il faut pour cela? Eh bien, il faut obéir aux lois qui gouvernent la société, chacun étant bien à sa place, dans sa caste, etc. Et si on obéit aux lois, si on fait les sacrifices prescrits par le livre des lois de Manu, eh bien, c'est le bonheur. C'est le bonheur sur cette terre, et c'est le bonheur après. Bien, on voit bien qu'il y a un réseau d'interdépendance entre tous les hommes, chacun à sa place, et bien entendu, les sacrifices seront faits en donnant un peu d'argent, même beaucoup aux brahmanes, à condition aussi que celui qui est balayeur reste balayeur. Bon, alors c'est bien, mais il faut aller un peu plus loin quand même dans cette vision-là et se poser la question. Finalement, quand on vit dans cette conception du karma qui est très liée aux actes de sacrifice, liée à finalement à la contribution que chacun apporte pour l'ordre social, etc., on n'échappe pas, on ne sort pas du tout de la problématique de mon petit moi. Du moi séparé, personnel. Quand on fait les bonnes actions, on va au paradis. Et on récolte le mérite de ces actions dans ce paradis. Et après, on revient. Et si on a eu un bon karma, on va revenir dans des bonnes conditions. On va revenir comme un prince, par exemple, ou un roi, ou je ne sais pas. Et si on a un mauvais karma, la loi de Manu prévoit qu'on va être crapaud visqueux ou vert de basse qualité, ou éventuellement taureau ou lion, des choses pareilles. Donc c'est une vision terrible de nos jours qui est complètement inacceptable, bien sûr. Alors, sur ce arrivent des philosophes. Les philosophes analysent tout ça et disent bien sûr, à la base de cette notion-là, il y a le désir et il y a le sens de l'ego. L'ego personnel qui ne vise qu'à être heureux, finalement, et heureux à sa manière. Donc, liquidons cela et voyons bien que tant qu'on reste dans la problématique de l'ego personnel, on n'en sortira jamais. Et finalement, par la réincarnation, on revient, on récolte constamment le fruit d'actions passées et on n'en sort jamais. C'est la cage d'écureuil dont on ne sort pas. Par conséquent, hâtons-nous d'en sortir. Hâtons-nous de prendre les bonnes attitudes et de voir très bien ce qu'il faudrait. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Eh bien, puisque karma nous enchevêtre, puisque les actions, karma veut dire action, puisque les actions nous enchaînent sans cesse, l'idéal, ça serait d'échapper à l'action, de ne plus agir. Donc, tomber dans le non-agir, de prendre de la distance par rapport à la société, devenir un ascète, etc. Et là, en échappant à l'action, et surtout en échappant au désir de la récompense, au désir d'aller au ciel, par exemple, au désir de ceci ou de cela, petit à petit, on va se libérer des liens de karma et... C'est vraiment l'idéal que l'on pourrait rechercher, que l'on va essayer de répandre parmi les disciples qui voudront bien entendre ce genre de discours. Alors, tout ça est bien gentil encore, mais à la fin du compte, ce monde est une vallée de larmes dont il faut s'échapper le plus vite possible. Et tant pis pour les autres qui vont rester, eh bien, ils n'ont qu'à se débrouiller et faire comme moi. Alors, l'interdépendance là-dedans est très mise à mal. où la solidarité entre tous les hommes est mise à mal, puisque les meilleurs de cette société vont s'engouffrer dans le nirvana en laissant les autres se débrouiller tout seuls. Bien sûr, ils auront laissé des beaux écrits, des Upanishads, des Bhashyas, et tout ce qu'on voudra, mais enfin, bref. Alors, heureusement, arrive, par exemple, la Bhagavad Gita avec un message beaucoup plus généreux, beaucoup plus universel et beaucoup plus large, qui nous intéresse beaucoup et auquel on va essayer dans lequel on va se plonger maintenant d'une façon un peu plus particulière. Alors, la Gita s'adresse à l'homme, quel qu'il soit, qui veut bien ne pas traîner, se laisser traîner par terre, qui veut bien se lever, qui veut aussi éventuellement arriver à se priver de ses béquilles habituelles, en particulier essayer de sortir de cette espèce de troc que les gens du Veda pouvaient faire avec les dieux. Je t'offre telle chose, une vache, et toi tu vas m'offrir un homme, un fils plutôt qu'une fille, ou bien tu vas faire mourir mon ennemi, des choses pareilles. Là, tout ça, on met ça à la poubelle, c'est plus ça du tout. Maintenant, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est qu'est-ce que c'est que ce monde dans lequel on est, qu'est-ce que c'est que cette vie, et qu'est-ce que c'est que karma en définitive. Alors, si on cherche, on va trouver bien sûr dans la Gita toutes sortes de passages qui parle de l'action, mais l'un des passages les plus étonnants, c'est celui qu'on voit au chapitre 8. D'abord au chapitre 7, il est dit que le sage, qui parvient à la grande, grande sagesse, arrive à connaître ce qu'est le divin. Donc, à ce qu'est le divin d'une façon générale. Et tout karma, alors ça c'est extraordinaire. Tout karma, mais ça veut dire quoi? Ça, il connaît toutes les actions de tous les hommes et de toutes les femmes et de tous les individus et de toutes les bestioles qui vivent sur la terre. Voyons ce qu'il dit, Krishna, maintenant, en réponse à la question que Arjuna pose, donc au chapitre 8, il dit, voilà, karma ça veut dire action, comme on le sait, c'est l'impulsion créatrice, c'est le mouvement universel, bien entendu, qui amène les êtres à l'existence et qui modèle les formes. Donc, tout être, quel qu'il soit, quelle que soit sa forme, quelles que soient ses caractéristiques, etc., quoi qu'il soit, d'une façon générale, tout ça, c'est le produit de l'action du divin, finalement, hein, des forces divines, si l'on veut, qui amène à la vie, à l'évolution, au devenir, tous les êtres qui sont bien sûr destinés à devenir, d'une façon générale. Mais on comprend bien en lisant d'autres chapitres que cette même action de karma, cette même force créatrice, a un aspect négatif, c'est aussi cette force qui va faire disparaître les mondes lorsque l'heure viendra. Hein ? Donc, il n'y a pas un bon Dieu qui fait des bonnes choses et puis un mauvais démon qui va démolir ce que le bon Dieu a fait. Quand l'heure arrive, chapitre 11, les forces du divin vont faire disparaître les formes qui sont devenues caduques, qui n'ont plus d'utilité. Donc, on voit que la notion de karma est dominée par cette dimension complètement universelle. C'est pas mon petit karma à moi, c'est cette grande force, cette grande énergie qui est à l'œuvre et qui fait quoi? Cette énergie qui est à l'œuvre, qui exprime ou qui véhicule ce que Krishna appelle le désir conforme, hein, à la loi, conforme à la loi universelle. Donc, cette force de karma, c'est finalement la volonté de la nature, la grande volonté du divin en action, mais conformément au dharma, conformément à la loi qui organise les choses et qui forcément va imposer l'interdépendance entre tous les êtres. Parce que s'il n'y avait pas d'interdépendance, si les êtres étaient séparés les uns des autres, le monde ne serait pas un cosmos, ne serait pas un ordre. Ça serait un chaos. Chacun irait dans son sens et chacun se débrouillerait comme ça. C'est pas ça du tout. Fondamentalement, le monde est constitué comme un rita, c'est-à-dire un ordre, quelque chose d'organisé qui est sous-tendu constamment par cette loi d'ordre, dharma. Ah, ça change un petit peu, hein. Parce qu'on imagine bien que si ce monde est manifesté, c'est pas pour le plaisir que quelques brahmanes sacrifient et puis aillent au ciel après. Hein. C'est quelque chose de bien plus vaste, bien plus généreux, bien plus universel. Alors, nous, les hommes, mais aussi les animaux, mais tous les êtres qui sont là, résultent, ont été portés à l'existence par ce mouvement. Et comme nous le savons, c'est un mouvement cyclique. Tantôt, les êtres sont appelés à l'existence, tantôt, ils disparaissent. Et à nouveau, un nouvel expire de la respiration de Brahma va les amener à l'existence, etc. Et tout ça, pourquoi ? Pour que les meilleurs se précipitent dans le nirvana et que les autres traînent leur guêtre comme ça à souffrir et à tourner dans la cage d'écureuil? Bien sûr que non. Il y a quelque chose, il y a un projet là-dedans. Il y a un projet. Hein, tous ces êtres qui sont lancés dans le processus de l'existence, donc de la réincarnation, et qui créent du karma, bien entendu, qui font des actions dans ce monde-là, tous ces êtres-là ne vont pas comme ça à la dérive. Ils vont vers quelque chose. Et on apprend assez rapidement, au chapitre 16 quand même, c'est plutôt vers la fin, on apprend que l'homme est porteur d'un projet, d'une destinée divine. Ça veut dire que l'homme tel qu'il est en ce moment, avec son corps, sa psyché, ses désirs, ses passions, mais aussi son idéal de vie, mais aussi le sens du divin qu'il porte en lui, le sens de l'immortalité qu'il a, etc., tout cela est appelé à fleurir. Tout ça est appelé à se manifester, à s'incarner et finalement à et permettre que l'homme devienne, incarne le divin qu'il porte au fond de lui, sachant que aucun de ces êtres-là, quel qu'il soit, ne se trouve séparé du divin. Krishna le répète plusieurs fois et on pourrait citer toutes les pages où il le dit, le divin est là, présent dans tous les êtres. Pas seulement chez certains, les meilleurs, et puis absent chez les autres. Il est là, présent, et en particulier dans le cœur de tous les êtres, et de tous les hommes en particulier. Donc, vous voyez, les choses deviennent bien plus sympathiques, beaucoup plus intéressantes dans un sens. Alors, qu'est-ce qui se passe après? On apprend au chapitre 3 que, eh bien, ce monde-là, c'est un monde qui a un sens, c'est un monde qui est organisé, où l'interdépendance est là à tous les niveaux. Alors, il y a le mythe de Prajapati qui fabrique les créatures. Enfin, il y a toujours des mythes. Il faut bien qu'il y ait des mythes pour raconter les choses que l'on ne peut pas raconter autrement. Et ce monde est lancé, finalement, sur la base du sacrifice. Hein? Sur la base de l'interaction, sur la base de l'action solidaire. Chacun va apporter quelque chose. Chacun, dans ses actions, va contribuer à ce qui est appelé loka samgraha, c'est-à-dire la cohésion de ce monde. Chacun va apporter sa pierre à la construction de quelque chose. Chacun va participer finalement à ce grand projet d'évolution, et en particulier à ce projet de divinisation de l'homme, qui bien sûr, en contrepartie, devra apporter une contribution pour que les autres, les règnes inférieurs, aussi puissent avancer. Donc ce sont des notions qui sont très très intéressantes si l'on veut regarder ça de près. Et Krishna dit bien, celui qui n'apporte pas sa contribution est là comme un voleur. Autrement dit, il ignore cette loi de solidarité, cette loi d'interdépendance. Il profite des choses, il fait cuire sa nourriture et il la mange, alors que en fait, l'homme véritablement devrait se nourrir du reste du sacrifice. Le sacrifice, il l'offre, mais forcément, il retombe une rosée, quelque chose qui va le nourrir. Donc, toutes ces notions-là sont très joliment énoncées par Krishna dans ce chapitre. Et on voit, bien sûr, que chacun étant à sa place, on ne peut pas demander à tous de faire la même chose. Les meilleurs devront donner l'exemple et mouvoir les moins éclairés vers le bien, vers l'action qui convient, aider chacun à prendre sa place dans le concert général de la solidarité et de l'interdépendance. Alors on voit que il y a une responsabilité beaucoup plus grande qui s'attache à celui qui en sait plus, celui qui est plus éclairé, celui qui a avancé plus loin sur le chemin de l'émancipation, sur le chemin de l'incarnation du divin en lui-même. Tout ça, c'est très très clair. Et on voit que même les plus grands sages, comme Janaka, par exemple, que vous connaissez bien, est arrivé à ce niveau précisément en s'engageant dans l'action et non pas en fuyant l'action, en s'enfermant dans un monastère pépère et là en méditant sur le divin. Donc en contribuant à l'ordre cosmique, comme il est dit, l'ordre Lokasamgraha, ce n'est pas l'ordre forcément cosmique, c'est l'ordre des mondes, et, ou la cohésion des mondes, et en particulier la cohésion de ce monde dans lequel nous sommes tous impliqués. Alors, ça change quand même pas mal de choses, hein. On voit que, finalement, nous sommes mis au défi, chacun où nous nous trouvons, de trouver, de découvrir quelle serait l'action à faire. Alors, bien sûr, les sacrifices continueront. Enfin, on continuera d'apporter sa contribution, on continuera d'être attentif aux autres. Et le Krishna le dit en deux endroits dans la Bhagavad Gita. Il dit, celui qui est vraiment sur le chemin de la sagesse se préoccupe du bien-être de toutes les créatures. Sarva bhute, bhutahite rataha. Il se préoccupe, il se réjouit de voir les autres heureux et il se préoccupe d'apporter sa contribution au bonheur des autres. Vous voyez, c'est, encore une fois, ce n'est pas un gars qui est enfermé dans sa petite cellule de méditation. Il est là au milieu des autres s'il le faut, mais bien entendu, il aura appris pas mal de leçons. On y reviendra, si vous voulez, tout à l'heure. Il aura appris, bien sûr, que chaque fois qu'il s'attache, lui, personnellement, à un objet des sens, sa conscience est là, fixée, enfermée dans la contemplation de cet objet d'essence, il va chercher à en jouir, etc. Et pendant qu'il va être là, à attacher son moi à la recherche du plaisir, eh bien, il se passe des choses dans le monde. Il est enfermé dans sa bulle. Et pendant ce temps-là, les autres attendent. Et pendant ce temps-là, quelque chose au fond de lui attend qu'il se lève, attend qu'il participe à sa propre émancipation. Donc on comprend bien qu'il va falloir ajouter tout le yoga possible, toutes les démarches de yoga qui sont décrites dans la Bhagavad Gita, en particulier cette espèce de distance qu'il faudrait prendre par rapport aux objets, par rapport à ce monde qui nous fascine, de façon à être dans ce monde et non pas être prisonnier de ce monde. Être dans ce monde pour y faire l'action nécessaire, mais pas être prisonnier de tout ce qui se présente. Prisonnier des choses agréables et aussi des choses désagréables, fuir les choses désagréables et se précipiter vers les choses agréables, être là avec une certaine impassibilité et garder l'esprit ou garder le mental et le cœur fixé sur quoi déjà? Sur le divin qui est à l'intérieur et qui, s'il est à l'intérieur, il est à l'intérieur des autres, il est à l'intérieur partout dans tout ce monde. Tout émane de lui, tout est soutenu par lui, par ses lois divines, et par conséquent, il faut être attentif à cette réalité qui fait que ce monde tourne. Il le dit au chapitre 18, verset 61, ce monde est entraîné comme en rotation, comme dans un manège, et pas pour rien, précisément, pour cette montée progressive de la conscience, cet éveil progressif où chacun a sa place et chacun intervient, chacun apporte sa contribution, son sacrifice. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, alors je passe sur toute la discipline de yoga, puisque ce n'est pas tellement, pas trop le sujet. Il faudrait découvrir la place que l'on doit occuper dans ce monde-là. La place que l'on doit occuper, c'est ce qui est appelé sva-karma, c'est-à-dire l'action propre qui nous revient. Ou mieux encore, sva-dharma, c'est-à-dire l'action qui contribue au maintien de ce monde. Dharma, ça vient d'un verbe, dri, qui veut dire soutenir, qui maintenir. Donc, chercher toutes les actions, toutes les attitudes possibles qui pourraient permettre de remplir sa place et d'accomplir sa mission et d'apporter la contribution nécessaire au maintien de cette grande roue qui est évoquée, la roue de la vie qui est évoquée au chapitre 3. Bon, ça veut dire que personne ne peut me dicter à moi ce que je dois faire. Il n'y a que moi qui peux découvrir quelle est cette loi, cette ligne d'action. Donc, bien sûr, on peut évoquer des grands commandements, tu ne tueras point, des choses comme ça. Bon, très bien, mais en pratique, à chaque instant de la vie, il y a une espèce de défi qui se présente. Qu'est-ce que je devrais faire? Comment relever ce défi? Comment participer au grand karma de la nature, et pas mon petit karma seulement, au grand karma, c'est-à-dire cette espèce de cette action, ce mouvement de la grande nature qui met toutes les choses en place et qui me met là, moi, face aux conséquences des actions que j'ai faites précédemment. Les actions, les effets qui arrivent là, les événements, toutes les conditions qui me sont imposées par l'incarnation, tout cela, c'est la réponse de la grande nature qui joue son jeu de karma, de son action, c'est la réponse aux attitudes, c'est-à-dire aux actions que moi, individu, j'ai pu faire dans le passé, les attitudes que j'ai pu avoir dans le passé. Donc il y a une espèce de dialogue entre le grand karma, la grande action de la nature et ma petite action à moi, mais chacun, là où il se trouve, compte, chacun à sa place. Chacun, personne ne peut être évacué, éliminé, tout cela. Chacun contribue donc à ce grand mouvement, à cette grande action de la nature, en apportant sa contribution. Alors, bien, on peut se, donc, comme je l'ai dit, personne ne peut dire à ma place, ce que je devrais faire. Donc, il s'agit de découvrir, comme dit l'Évangile, les talents qui sont à ma disposition, les capacités d'action, l'intelligence, l'ouverture du cœur, etc., tout ce qui est là, tout ce qui est entre mes mains en tant qu'homme ou en tant que femme sur la terre, et tous les rapports que j'ai avec les autres, en somme tous les devoirs qui s'imposeraient si je voulais vraiment apporter ma contribution à l'éveil des autres, au bonheur des autres, hein, sarva bhuta hite rataha. Hein, se réjouir et apporter sa contribution au bonheur des autres. Tout ça, ça fait partie de mon swadharma, c'est-à-dire l'action que je devrais accomplir. Alors bien sûr, c'est difficile, et qui d'entre nous se préoccupe de ce genre de choses? Alors qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive si nous ne répondons pas à cet appel de la nature, finalement, cet appel du divin en nous, ça veut dire la même chose? Eh bien, nous allons faire des actions négatives, c'est-à-dire qui ne vont pas dans le sens qui correspondrait au meilleur plan possible. Et bien entendu, le tissu vivant de tout ce monde, de toute cette nature, va réagir, va ressentir cette action négative, cette démarche qui ne va pas dans le sens voulu collectivement, le sens voulu par la grande volonté de la nature, volonté générale de la nature, et par conséquent, ce tissu vivant va réagir, va être lésé en quelque sorte par mon attitude, et va réagir de telle sorte que d'une manière ou d'une autre, les conséquences vont arriver. Le monde est extraordinairement complexe, on ne sait pas très très bien comment ça se passe, avec la théosophie on a quelques indications, il est extraordinairement complexe, mais certainement que toute action qui ne va pas dans le sens souhaitable finalement va entraîner une conséquence dont l'acteur va recevoir les effets, et il faudra d'une manière ou d'une autre qu'il corrige cela, autrement dit qu'il revienne à l'interrogation: pourquoi est-ce qu'il arrive telle chose? Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et si on pense qu'il y a effectivement cette loi de karma, qu'est-ce qui a été une action qui va dans le sens contraire ou qui s'est mis en travers du grand mouvement évolutif de la nature? Et par conséquent, ceci devrait entraîner non seulement une interrogation, mais aussi une décision de chercher où ça va pas et de changer quelque chose dans son attitude. Donc on voit que la nature joue avec chacun des êtres, joue un jeu où elle exécute, où elle se comporte toujours en fonction de ses propres règles, et celui qui joue avec elle ne connaît pas ses règles, mais il est là condamné à les apprendre. Et ces règles, bien sûr, elles sont pas, c'est pas drôle, on aimerait mieux dormir dans un coin, mais finalement, ces règles visent à agrandir l'être, à l'agrandir à la dimension de l'universel, autrement dit à l'universaliser, à le diviniser. Donc l'enjeu est extraordinairement grand. Et c'est pas étonnant que si on se mesure à un joueur comme la nature, les effets soient parfois très très puissants et très très forts. Mais enfin, il y a quelque chose là, hein, c'est oui ou non. C'est oui ou non la destinée divine, ou bien rester là où on en est, peut-être même disparaître de ce monde. Ça, c'est évoqué au chapitre 16 ou 17, 16 de la Gita. Alors maintenant, que dire? Il faudrait dire encore mille choses. Nous sommes là, donc, là, partout où nous sommes, face à ces impératifs de l'interdépendance. Mais cette interdépendance n'est pas seulement l'interdépendance avec ma petite famille, avec peut-être le peuple français ou quelques-uns, etc. C'est une interdépendance qui englobe tout, qui englobe tous les êtres vivants, qui englobe tout ce cosmos et en particulier toute cette planète. On comprend ça très très bien au niveau de l'écologie. Hein. Si vous voulez, l'écologie, c'est un petit peu l'interdépendance de la jungle. On va s'expliquer un tout petit peu. L'interdépendance de la jungle dans laquelle, finalement, si on met les hommes en dehors, hein, tous les animaux, toutes les plantes et le milieu naturel, tout cela est en interdépendance. Bien sûr que il y a la contribution du soleil, il y a la contribution des herbivores qui fabriquent de la nourriture, etc. Et puis l'intervention des carnivores qui mangent les herbivores. Mais tout ça est réglé par des lois d'économie, de telle sorte que les herbivores ne mangent pas tout, les carnivores mangent juste ce qu'il faut, etc. Et il y a un cycle des éléments, un cycle de la nourriture, etc., qui fait que si chacun respecte sa loi, là où il est, hein, par exemple aussi, si c'est nécessaire, réguler les naissances quand il n'y a plus rien à manger ou des choses pareilles, si personne n'intervient pour bouleverser cet ordre-là, il va se maintenir et il va permettre à tous ces êtres-là impliqués dans cette grande interdépendance de la jungle, permettre de vivre et de faire les expériences nécessaires jusqu'à ce que petit à petit les plus avancés puissent atteindre peut-être le stade humain dans un cycle futur. Bon, mais nous sommes condamnés à aller au-delà de cette interdépendance de la jungle. Nous sommes condamnés à aller même au-delà de la pure solidarité, de la pure vertu de solidarité. C'est déjà très très bien. Et quand on parle d'éthique planétaire de nos jours, on fait largement appel à cette notion d'interdépendance, cette notion de solidarité universelle. Mais la solidarité universelle, bien sûr, ça c'est le minimum, la solidarité entre les hommes conscients de ce qu'ils doivent aux autres, de ce qu'ils peuvent apporter aux autres pour leur permettre de s'épanouir, chacun étant à sa place, étant respecté là où il se trouve, etc. Il faut aller plus loin si on veut vraiment aller dans le sens de la destinée divine. Il faut aller au point où on pourrait saisir, on pourrait percevoir quelle est l'intention, quelle est la volonté profonde de la nature quand nous sommes ici tous incarnés sur la terre. Alors, bien entendu, là, il y a tout l'aspect du yoga, en particulier de la méditation, etc., qui peut intervenir pour aider l'individu à se sentir de plus en plus profondément complice de cette volonté générale de la nature. Pour aller au-delà des simples considérations humaines, de société, des choses pareilles, mais faire que l'individu, trouver les voies qui permettraient à l'individu de devenir, comme j'ai dit, un complice ou un ami intelligent, conscient de la volonté générale de la nature. On ne se rend pas compte bien ce que ça représente, mais chaque fois que Krishna parle de ces êtres qui deviennent conscients, il dit ces êtres-là perçoivent l'unité fondamentale des êtres, de tous les êtres, avec eux-mêmes. Ils voient le divin partout dans tous les êtres, ils voient tous les êtres présents dans le divin. Donc c'est un degré supérieur à l'interdépendance ou un degré supérieur à la solidarité. Cette perception de l'unité fondamentale de ce monde avec sa dynamique. Ah, nous sommes un peu comme des instrumentistes dans un grand orchestre. Nous jouons notre note et parfois nous regardons le chef d'orchestre, parfois nous ne le regardons pas, le plus souvent nous ne le regardons pas, mais nous sommes là par l'effet de l'interdépendance et par l'effet de notre place dans ce monde et par l'effet de la grande du grand karma de la nature, ce grand mouvement d'émanation et d'évolution, nous sommes là condamnés à jouer et à apprendre à jouer convenablement. Et bien sûr que si nous ne jouons pas convenablement, quelque part, nous sommes repris. La nature ou le chef va nous interpeller et nous rappeler que ce n'est pas comme ça qu'il faut jouer. Bon, malheureusement, nous n'apprenons pas toujours la leçon. Mais petit à petit, c'est vrai que si nous devenons, comme le suggère Krishna, attentifs à cette volonté, à cette présence du divin, et à cette dynamique de la vie, nous sommes à cette dynamique du chant de la vie que nous devons apprendre à entendre, à ce moment-là, nous devenons des instrumentistes de plus en plus parfaits, jusqu'à ce que nous découvrions qu'il y a dans l'orchestre des solistes, que Krishna appelle le Mahatma au chapitre 7, des solistes qui, eux, savent très très bien ce que veut le chef d'orchestre. Savent très très bien ce qu'il faudrait faire et savent très très bien les exemples à donner à tous les instrumentistes qui ne sont que des débutants. Merci.